les podcasts de Radio Courtoisie.
Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, Israël-Palestine, l'impossible solution à deux États.
Animés par leur désir de résoudre le problème israélo-palestinien, des responsables politiques préconisent une solution à deux États, c'est-à-dire la coexistence sur une même terre d'un État d'Israël et d'un État de Palestine. C'était déjà la solution que l'on croyait avoir trouvée aux accords d'Oslo, signés en 1993, qui depuis 30 ans n'ont pas été respectés par aucune des parties en présence, et de toute façon, le Hamas qui règne à Gaza ne se sent pas obligé par la signature du Fatah qui règne en Judée-Samarie. Mais par-delà cet échec, nous étudierons ici la faisabilité du projet lui-même. Commençons par la Palestine, telle qu'elle a été dessinée aux accords d'Oslo. On voit d'emblée le hiatus entre les discours théoriques et la seule réalité qui compte, à savoir la géographie. Il faut imaginer un pouvoir central en Judée-Samarie, rebaptisé d'un nom neutre, débarrassé de son histoire plurimillénaire, Cisjordanie, comme certains avaient cru pouvoir rebaptiser en 1867 l'Autriche Cisleitanie et la Hongrie Transleitanie, de part et d'autre de la rivière Leita. La Cisjordanie, donc, ayant sa capitale à Jérusalem-Est ou ailleurs, peu importe, comprenant 2 700 000 habitants, supposés gouverner de loin la bande de Gaza, peuplée de 2 millions d'habitants, séparés de leurs compatriotes par le district d'Ascalon laissé à Israël. L'histoire politique de la Palestine a déjà démontré l'absurdité de cette solution, puisque les citoyens de Cisjordanie ont élu un pouvoir émanant du Fatah, tandis que les Gazaouis un pouvoir émanant du Hamas. Même en supposant qu'Israël se résignerait à ouvrir son mur de séparation à un corridor venant de Cisjordanie, un peu comme les autoroutes entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest au temps de la guerre froide, on devine que cet État divisé en deux territoires discontinus, aux populations sensiblement égales, ne pourrait demeurer longtemps uni. Souvenons-nous des deux parties orientales et occidentales du Pakistan, quand bien même cette comparaison a ses faiblesses. Alors, une solution non plus à deux, mais à trois États, l'exploitation des nappes de gaz au large de Gaza pourrait peut-être rendre ce territoire surpeuplé viable économiquement. Mais il n'y a pas qu'aux Palestiniens que la géographie pose problème. Passons à Israël, en commençant par rappeler quelles sont les frontières que l'Assemblée des Nations Unies lui a reconnues le 29 novembre 1947. Remarquons qu'une grande partie de la Galilée au nord ne lui était pas attribuée, que la bande de Gaza laissée aux Palestiniens se prolongeait vers le sud-est en longeant le désert du Negev, que Jaffa, voisine de Tel Aviv, devait être une enclave palestinienne, que Jérusalem devait être une ville administrée par l'ONU à l'intérieur de la Palestine. D'emblée, les Israéliens ont compris que leur pays était impossible à défendre en cas d'attaque, que leurs frontières ne pouvaient en aucune manière les protéger. Leur chance, pourrait-on dire, est venue de ce que ni les Palestiniens, ni le monde arabe en général ne souhaitaient alors accepter ce partage qu'ils regardaient comme une colonisation par des Européens juifs, au moment même où commençait avec les Indes et l'Indochine le vaste mouvement des décolonisations. C'est ainsi qu'en 1948, les pays arabes environnants ayant pris l'initiative d'une attaque, Israël a remporté une victoire qui lui a permis de desserrer l'étau et de s'emparer de la moitié ouest de Jérusalem, tandis que la Jordanie prenait la Judée-Samarie sous son aile. La guerre de six jours en 1967, encore déclenchée par les Arabes, fut une nouvelle aubaine. Israël arracha à la Syrie le plateau du Golan, à l'Égypte le Sinaï, à la Jordanie toute la Judée-Samarie, donc tout Jérusalem. Aucune de ces annexions n'a été reconnue par l'ONU, mais voilà les frontières actuelles, sauf la rétrocession du Sinaï à l'Égypte en 1975. Si l'État d'Israël a procédé à ces annexions, c'est pour rendre son espace défendable. De fait, le retour à un partage de cet espace en deux États rendrait de nouveau Israël indéfendable. Entre la Judée-Samarie palestinienne et Tel Aviv israélienne, son territoire n'aurait qu'une largeur d'une quarantaine de kilomètres. Quand bien même les Palestiniens renonceraient-ils à repousser leurs ennemis à la mer, comme ils en ont rêvé au moins jusqu'aux accords d'Oslo, mais dans lesquels le Hamas ne se reconnaît pas, et comme ils en rêvent encore, quand on voit la forme qu'ils donnent à leur futur État sur leurs bijoux ou leurs pancartes. Et de son côté, quand bien même Israël ferait-il revenir ses 500 000 colons de Judée-Samarie, aucun de ces deux États ne serait viable. Ou bien il le serait s'ils pouvaient vivre en paix les uns à côté des autres, comme le Liechtenstein avec la Suisse ou le Luxembourg avec la Belgique. Mais ici, trop de tensions persisteraient, au premier rang desquelles des tensions religieuses, ne serait-ce qu'à propos de Jérusalem, revendiquées par les deux religions. Par exemple, une Jérusalem Est, capitale de la Cisjordanie, n'en abriterait pas moins le mur des Lamentations, vestige du temple détruit par Titus en 70. Ou bien alors, comme certains, très minoritaires, le préconisent, deux populations dans un seul État. Mais cette cohabitation est impossible pour des raisons religieuses. Revenons-y. Les musulmans professent une foi venue des Arabes qui prétendent descendre d'Ismaël, fils premier-né qu'Abraham eut de sa servante Agar, avant la naissance inespérée d'Isaac, qu'il eut de son union légitime avec sa femme Sarah. Isaac, dont le nom signifie Dieu a ri, gageons que Dieu rit moins aujourd'hui quand il voit se déchirer la descendance revendiquée d'Abraham. N'oublions pas que selon la foi des Mahométans, leur prophète monta une monture ailée qui le fit s'envoler de la Mecque à Jérusalem, se posa sur l'emplacement du temple détruit par les Romains, avant de s'envoler de nouveau vers le ciel. Voilà une manière de revendiquer cette ville contre les usurpateurs juifs issus d'Isaac. Ce qui avait été depuis 1947 une lutte politique s'est transformé depuis l'échec de cette lutte conduite par Yasser Arafat en une guerre de religion. Le Fatah, l'Organisation de libération de la Palestine, avait un emblème montrant deux armes à feu, une grenade et en arrière-plan la carte de la Palestine, du Jourdain à la mer, avec pour devise la révolution jusqu'à la victoire. Cela sonnait bien le socialisme des années 60 et 70. Mais l'emblème du Hamas conserve le dessin de la Palestine en haut, certes, mais l'image se concentre sur le dôme de rocher à Jérusalem. Tandis que deux épées se croisent qui symbolisent la guerre sainte, la devise est devenue tout simplement la Shahada, il n'y a qu'un seul Dieu et Mahomet est son envoyé. Cela en dit long, cela explique aussi que chaque pays exposé à la menace islamique se voit désormais engagé malgré lui dans une querelle qui, jadis, avant l'ouverture en grand des vannes de l'immigration par Giscard, fut resté un sujet diplomatique et non pas une question de politique intérieure comme on le constate aujourd'hui. Quant à une autre solution qui serait d'administrer cette région sans donner aucun pouvoir à aucune des deux populations qui l'habitent, elle a déjà été vécue par les Britanniques à l'époque où ils y exerçaient un mandat confié par la Société des Nations après l'effondrement de l'Empire ottoman en 1918, puis son démembrement. Résultat, les Britanniques s'étaient placés entre le marteau et l'enclume. Comme le montrait Hergé dans sa version originelle du Pays de l'or noir, entamée en 1939, publiée en 1950, dont je recommande la lecture plutôt que sa deuxième version édulcorée, déformée, politiquement correcte de 1971. Mais dans tous les cas, de quoi vous donner un peu d'air, puisque nous parlons en ce moment d'un sujet terrible entre tous. Car au vu de toutes ces différentes solutions, dont aucune n'est viable. Il faut se résoudre à admettre que ce conflit est insoluble, ou bien, s'il prend fin un jour, ce sera par la victoire décisive, c'est-à-dire totale et durable, donc atrocement sanglante, d'un camp sur l'autre.
C'était Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, Israël-Palestine, l'impossible solution à deux États. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.